Matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser, les femmes changent tout. C'est-à-dire que la question des femmes change toutes les autres questions. Ce n'est pas une question parmi d'autres. Ce soir, l'égalité entre les femmes et les hommes avec Réjeanne Sénac. Les femmes changent tout, donc la question de l'égalité, ce soir avec Réjeanne Sénac, directrice de recherche au CNRS, au CVPOF, qui vient de publier un nouvel essai intitulé « L'égalité sans condition, osons nous imaginer et être semblables ». Bonsoir Réjeanne Sénac.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là pour parler de cette question que j'ai mise sous un chapeau qui vous a un peu surprise. Les femmes changent tout. Vous vouliez insister sur le fait que c'est plutôt la question de l'égalité que la question des femmes qui vous intéresse. C'est pas la question de ce que c'est qu'être une femme ou ce que c'est qu'être un homme qui vous intéresse en soirée, Jeanne Sénac. C'est vraiment sous le signe de la question de l'égalité.
Oui, alors... Parce que cette expression « les femmes changent tout » renvoie quand même à une tentation qui est assez grande, qui est celle de justifier la légitimité, en particulier de l'inclusion des femmes dans les espaces où elles ont été historiquement, dont elles ont été historiquement exclues, au nom du fait que ça apporterait autre chose ou que ça changerait des choses, mais dans une logique de plus-value, alors que jusqu'à présent on les a exclues en moins-value.
Ah, je comprends.
Voilà, donc c'est cette ambivalence qui, je pense, n'est pas du tout dans votre angle. Mais c'est pour ça que je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement arriver à penser l'égalité, donc cet horizon politique, en frottement avec, vous avez parlé de plus l'ontologique, hein, ce que l'on est, c'est pour moi c'est ça qui change tout, c'est comment arriver à penser l'égalité alors que jusqu'à présent, ce qui a été posé comme une singularité indépassable, l'autre sexe hein, que sont censées être les femmes, a fait écran à la pensée réelle de l'égalité.
Oui, je suis frappée par ce que vous dites, Réjeanne Sénac, que l'idée que les femmes changent tout, ça pourrait être, mettons un petit peu de féminité par-ci, par-là, et ça changera une réunion comme un ingrédient qui changerait un petit peu, alors que l'idée, effectivement, que je voudrais vous soumettre et que je voudrais discuter ce soir, c'est plutôt que la question du rapport entre les hommes et les femmes, qu'on croit parfois résolue. Non seulement ne l'est pas, mais travaille toutes les autres questions politiques, est une question qui fait surgir la question de l'égalité, là où on voudrait le moins la voir, on voudrait dans nos sociétés en particulier que ce soit réglé, mais elle est encore partout, cette inégalité-là, Réjeanne Sénac.
Comme vous l'avez dit, il y a une véritable ambivalence, parce qu'il y a à la fois le mythe de l'égalité déjà là, donc comme vous le dites, cette idée que c'est réglé.
C'est réglé, on l'a déclaré, donc
voilà.
C'est fini.
Alors on l'a déclaré récemment, hein, même si on a déclaré l'égalité principielle avec la logique des Lumières qui a laissé dans l'ombre les non-frères. L'égalité femmes-hommes, on l'a déclaré en tout cas juridiquement à la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il y a une forme de consensus apparent qui dit, bon, c'est bon, l'égalité s'est dépassée. Dans le même mouvement, et c'est là où il y a l'ambivalence, dans le même mouvement, on voit bien, et on le voit en particulier dans les résistances à des évolutions telles que l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe, telles que la rénovation de l'école à travers les ABCD. On voit bien qu'en fait, cet apparent consensus sur l'égalité de droit entre les femmes et les hommes... Il est limité par un attachement à la complémentarité entre les femmes et les hommes et aussi par la primauté donnée à l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. Donc c'est au-delà de cet apparent consensus, il y a en réalité un très grand dissensus sur qu'est-ce qu'on entend par égalité femmes-hommes. Et donc je vous rejoins tout à fait sur l'idée que ça change tout de se poser vraiment la question et de s'interroger, ce que j'essaye de faire, à la fois sur les conditions d'impossibilité de l'égalité. Hein, pourquoi aujourd'hui, quand on fait la cartographie de la place des femmes et des hommes dans la société française en particulier, en réalité ce qu'on cartographie ce sont les inégalités. et comment est-ce qu'on arrive à mettre ensemble cette prétendue égalité formelle et cette inégalité réelle.
Alors, on va revenir sur les outils politiques que vous utilisez, Réjeanne Sénac, vous êtes spécialiste de sciences politiques, vous travaillez sur les catégories politiques qui nous masquent cette égalité des hommes et des femmes, et en particulier vous critiquez la fraternité, la liberté et un certain usage de l'égalité, et c'est ce mouvement critique qui vous anime très fortement. Mais dans ce que vous venez de dire, il y avait quelque chose de plus, et dans votre livre aussi, c'est-à-dire il faut aussi s'imaginer semblable. Il y a un ensemble, un imaginaire anthropologique qui fait qu'on déclare une égalité formelle, mais en même temps on se pense radicalement différent. Vous êtes une femme, je suis un homme, et aussitôt on va se représenter des tas de choses qui nous mettraient, qui feraient qu'on serait finalement pas les mêmes a priori. Au fond, vous avez aussi cette idée. Imaginons, osons nous imaginer semblables, osons nous dire que nous sommes deux individus très différents, mais pas parce que vous êtes une femme et moi un homme. Vraiment, vous allez loin dans cette direction aussi de l'imaginaire, de ce que nous sommes.
Oui, pour moi, c'est révélateur la difficulté et la résistance à s'imaginer comme des semblables quand on est identifié comme étant, comme appartenant, avec nous ou malgré nous, à des groupes qui sont des groupes associés à une forme de singularité.
Une forme de différence, quoi.
Alors, plus qu'une différence, c'est-à-dire qu'une différence qui rend incompatible cette imagination du semblable et qu'il a été d'un point de vue historique et théorique. Et pour moi, c'est le cas à la fois des femmes et des racisés. Les frères, tels qu'ils ont été construits dans la fiction en particulier républicaine française, c'est-à-dire les hommes blancs.
L'espace de la fraternité, disons, les frères, ceux qu'on considère comme frères.
Ceux-là n'ont absolument pas de mal à comprendre qu'ils peuvent avoir, en tant qu'individus, une singularité qui les rend uniques. Et dans le même mouvement, reconnaître les autres frères comme des semblables en humanité. Et ils ne vont pas le percevoir comme une mise en danger de leur singularité ou comme cette espèce d'utopie qui est perçue comme complètement contre-naturelle et dangereuse de la peur de l'indifférenciation. La peur de l'indifférenciation qu'on a vu revenir en particulier dans les mouvements de résistance contre l'ouverture du mariage civil
pour tous,
elle est brandie. De la même manière que on l'a vu par rapport à la peur de la mixité raciale, elle est brandie avec cette espèce de fantasme de la dimension contre-nature de s'imaginer comme des semblables ou de perdre son identité lorsqu'on se perçoit à égalité, donc ce qui est un horizon politique, avec celles et ceux qui sont censés devoir articuler toujours, être toujours en tension avec le fait d'être conforme à la singularité identitaire qui est censée les caractériser, que ce soit être une femme ou être racisée, ou être une femme racisée, et le fait d'être humain ou humaine. Et par exemple, Pierre Rosanvallon, dans La société des égaux, c'était intéressant parce qu'à un moment donné, il le dit explicitement.
Que finalement, on doit garder des différences dans cette égalité, qu'on ne doit pas se penser comme juste des êtres humains avec des singularités individuelles.
Alors, il dit quelque chose.
Il faut garder des catégories finalement.
Voilà, il dit quelque chose de très ambivalent parce qu'il dit en même temps, on peut se féliciter que l'égalité femmes-hommes est un laboratoire vers l'évolution vers plus d'égalité, mais il dit à condition de ne pas oublier que les femmes sont des singulières et doivent le rester. Et il y a une note de bas de page faisant une référence à Beauvoir en disant déjà Beauvoir courait ce risque de l'indifférenciation entre les femmes et les hommes.
Comme si on perdait quelque chose, Réjeanne Sénac, à ne plus vouloir se parler en tant qu'homme et femme. Comme si on perdait un accès à l'autre en perdant cette catégorisation. C'est une nostalgie de cette catégorisation, cette différence.
Pour moi, c'est vraiment un butoir de pensée et cette idée que les non-frères sont toujours renvoyés à une ontologie qui rend incompatible la pensée réelle d'une égalité. Donc moi, je trouve que c'est révélateur en réalité d'un sexisme et d'un racisme, puisque pour moi, c'est aussi
ça
le cas.
Ça vaut aussi pour les différences raciales ou racisantes.
Qui fait des femmes et des racisés toujours des humains conditionnés à leur singularité.
tenues assignées à leur singularité,
tout à fait.
Que l'on n'a accès qu'en tant que bah, c'est
tout
une femme et, ou c'est un homme, à travers ce prisme finalement, Réjeanne Sénac. Alors ce qu'il y a d'intéressant, vous utilisez tout de suite votre catégorie critique, celle de non-frère, vous critiquez l'idée de fraternité en disant finalement, c'est ce que vous venez de dire, nous sommes tous frères, en fait, c'est toujours dans un certain espace déterminé. Et on aurait peur de dire tous les hommes sont semblables, et on dit frère en croyant qu'on dit ça, mais en fait on a un prisme qui restreint la fraternité, et vous dites au fond d'abord à des hommes, c'est frère et pas sœur, vous revenez sur cette critique-là, et en plus c'est toujours certains qui sont frères et pas tous, donc dans la déclaration des droits de l'homme, s'il y avait ou dans la République française il y avait la fraternité, mais elle n'était pas dans ses frères, ni les femmes, ni les esclaves, ni d'autres catégories encore. Donc cette fraternité est non seulement un mythe, mais un leurre.
Pour moi, elle dit une communauté exclusive et donc excluante. J'aime beaucoup cette question
Alors qu'on la présente toujours comme un plus par rapport à l'égalité. Il y a liberté, égalité et là, en plus, la fraternité qui est une sorte de relation encore plus universelle dans l'imaginaire républicain.
Alors la fraternité, c'est un troisième terme qui est essentiel parce que ça dit le qui du politique, c'est-à-dire à qui on applique les principes fondamentaux de liberté et d'égalité. C'est éminemment essentiel de savoir qui est
dans votre analyse,
dans cette fraternité.
C'est pas une ouverture encore plus universelle, ça dit au contraire la restriction, ça restreint les deux premiers termes.
Absolument, enfin, ça dit à qui on applique légitimement les deux premiers termes. Historiquement et théoriquement, c'est absolument ce qui s'est passé. Puisque, comme vous le dites, c'est absolument pas neutre que la devise ne soit pas liberté, égalité, sororité. Ou liberté, égalité, adelphité, ce qui voudrait dire les enfants
adelphité,
de la même mère.
Il faut nous traduire, donc les enfants en général peut-être.
Oui, quel que soit leur sexe. Hein. Donc là, c'est une racine grecque et pas latine. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à travers une analogie d'un entre-soi naturel. Déjà, de la famille. Hein. Donc là, c'est une communauté, c'est par analogie avec la communauté familiale. Donc là, cette idée de ressemblance, il y a une dimension un peu
fermée,
biologisante, ouais. Voilà, originairement, même si on peut le voir comme symbolique. Et ensuite, il y a l'idée que qui sont ces frères ? J'aime beaucoup une phrase de Sartre dans Critique de la raison dialectique. Ouais. Il dit, qu'est-ce qui fait que des petits pois dans une boîte de conserve se reconnaissent comme des frères ? Je trouve cette phrase éminemment intéressante, parce qu'en fait, la question qui pose, c'est quoi ? Par exemple, si c'est une boîte de légumes, déjà, il y a l'idée que les petits pois, ils vont dire, il y a les petits pois, il y a les carottes, il y en a moins, hein, parce que c'est une boîte de petits pois.
C'est une massée de légumes,
voilà.
Mettons, il y a une variété.
Une variété, mais alors, si c'est, par exemple, une boîte de petits pois avec un peu de carottes et un peu d'oignons, donc chacun va avoir des goûts différents, des rôles différents voilà, dans ce plat-là. Il y a l'idée aussi, donc, au lieu de se voir comme des légumes, c'est pas la même chose de se voir comme des légumes, de se voir comme petits pois, carottes, voilà. Et donc, pour moi, s'imaginer comme des semblables, s'imaginer comme des humains, c'est dire,
nous sommes tous,
on est tous des légumes.
Des légumes.
Et il y a l'idée aussi de boîte de conserve, c'est-à-dire que ça dit les frontières de la communauté politique.
Alors là, revenons un petit peu à l'idée de fraternité que vous critiquez, que vous déconstruisez, on pourrait dire, Réjeanne Sénac. Là, ce que vous venez de dire, c'est que il y a deux implicites au moins dans le mot fraternité. Il y a un implicite biologique, du lien familial, fraternel, et un implicite masculin, finalement. Le mot frère, au fond, renvoie quand même à des hommes au sens masculin du terme. Et cet imaginaire-là, au fond, a d'abord été bien réel pour vous. C'est-à-dire, c'est d'abord été très clairement un des moyens de révéler la vérité d'une liberté d'égalité restreinte.
Alors là, c'est
ça vous paraît tellement évident.
On est dans la vérité au sens d'Aletheia.
Il faut bien voir que ce n'est pas si évident que ça. Que, encore une fois, comme je vous le disais, dans beaucoup d'interprétations de la devise républicaine, il y a la liberté, c'est l'individu, l'égalité, c'est tout le monde, et en plus, il y a l'amour fraternel. Donc vous voyez, c'est une sorte d'archi-universel, et là, vous en faites au contraire une restriction critique, ce qui pour vous va de soi, mais qui en fait est très nouveau dans le champ de l'interprétation républicaine.
Alors, pour moi, pour que ce soit une ouverture, il faudrait que ça soit le terme de solidarité et pas le terme de fraternité. Pour moi, le terme de fraternité, il dit en effet ce conditionnement de l'application des principes de liberté, d'égalité à ceux qui se reconnaissent comme ayant la capacité, la puissance, la légitimité d'être des êtres de raison. Et si les femmes ont été exclues de la citoyenneté civique, droit de vote et d'éligibilité, civile, capacité de contracter et sociale, c'est pas un hasard, une contradiction mais bien au contraire une affirmation de la pertinence du principe d'égalité uniquement pour les frères. Alors, il suffit de lire Jean-Jacques Rousseau, qui a publié la même année L'Émile ou de l'éducation et Le contrat social. Il nous explique pourquoi il faut élever. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire advenir des frères pour lui en les élevant comme des égaux. Mais ça, ça marche que pour les hommes. Il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant aux conséquences du sexe. La femme est femelle en tout instant, ou du moins toute sa jeunesse. Le mâle n'est mâle qu'en quelques moments.
Oui, et c'est vrai qu'il y a toute l'éducation d'Émile qui est consacrée le livre. Et puis à la fin, il y a le problème de l'amour qu'il faut régler. Et arrive Sophie, et avec un chapitre spécifique sur l'éducation des filles. Donc pour vous, au fond, cette éducation, effectivement, n'a rien d'universel dans le projet, pourtant en apparence universel, de Rousseau.
Ah non, puis il explique pourquoi ça ne peut pas être une citoyenne active, mais ça ne peut être, on ne peut l'élever, l'éduquer que pour qu'elle soit une bonne mère, une bonne épouse. Un autre théoricien qui est très intéressant là-dessus, et aussi politique d'ailleurs, Sylvain Maréchal, alors dans un autre courant, mais Sylvain Maréchal qui a écrit...
Un fondateur de l'anarchisme.
Voilà, qui a écrit le Manifeste des Égaux. 5 ans après, il propose une loi interdisant à apprendre à lire aux filles. Au nom d'une parfaite égalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là où c'est très complexe. C'est-à-dire que c'est pas une exception au principe d'égalité. C'est au nom du principe d'égalité qu'on a exclu les femmes d'une citoyenneté active. Parce qu'il dit, ils sont parfaitement égaux en ceux qui les constituent. Et donc cette idée de complémentarité des vocations et des missions exclut les femmes du politique et de la capacité d'être des êtres de raison.
Donc finalement, dès qu'on essentialise une différence, même en termes apparemment généreux de complémentarité, de richesse, de variété, etc., en fait, on exclut. Alors je voudrais revenir sur un point, Régène Sénac, que vous avez mentionné au passage, mais qui touche à des enjeux essentiels aujourd'hui et à des enjeux politiques majeurs. Quand vous avez évoqué la possibilité de remplacer le terme fraternité par sororité. Et ensuite, vous êtes passé à solidarité. Mais...
Non, je ne dis jamais sororité, je dis adelphité. Ouais.
Oui, mais vous avez évoqué la possibilité que vous n'avez pas assumée vous-même, mais qui intervient dans le champ politique aujourd'hui. Certains ont voulu, à un moment, dire sororité. Et ça renvoie, il me semble, à l'idée que la seule manière d'afficher la discrimination implicite dans fraternité, c'est de la faire ressortir par une affirmation justement du féminin. Et sororité, c'est un moyen critique. Ça renvoie aussi à ces analyses, ces gestes critiques que vous évoquez, dont vous justifiez la légitimité au moins partielle, qui est justement face à une exclusion cachée, assumons une différence et une exclusion revendiquée, au moins critique, faisons des événements réservés aux femmes, parlons de sororité contre la fraternité. Ce geste-là, vous ne l'assumez pas entièrement, puisque vous arrivez à solidarité, mais vous le comprenez malgré tout.
Alors par rapport à la devise républicaine, il me semble très intéressant de mettre en faire le symétrique, c'est-à-dire dire, soi-disant la fraternité incarne l'universalité, la neutralité, ce qui est une contre-vérité historique et théorique absolue, faisons le jeu de dire, qu'en est-il si on met sororité? Et là, tout le monde va dire, non mais sororité, bien sûr...
Vous plaisantez.
Vous plaisantez. Et d'ailleurs, Raphaël Enthoven joue... à l'antiféministe tout à fait paradigmatique, en disant que ça serait laid, ridicule, et que de toute façon, ça serait communautariste, et que c'est du côté des intérêts particuliers. Donc, il rejoue quelque chose qui est au cœur, d'ailleurs, de ce sexisme constituant, d'un point de vue à la fois théorique et pratique, qui est de renvoyer... ce qui est associé aux femmes à la singularité, alors que ce qui est associé aux hommes serait censé représenter la neutralité, l'universalisme. Donc moi, je trouve que c'est avant tout didactique de faire ça, de faire ce symétrique, pour montrer que, justement, comme le disait Simone de Beauvoir, il y a cette idée que les femmes, c'est l'altérité absolue, c'est toujours la singularité. Donc l'enjeu pour moi, il n'est pas de renverser... en symétrique, cette logique d'exclusion. Il est d'arriver à penser les différences...
Une véritable égalité.
Voilà, les différences dans l'égalité, sans que cette catégorisation soit une catégorisation qui enferme dans une singularité.
Oui, donc la fraternité, on pense d'emblée à l'universel, et sororité, on hausse un sourcil, on dit c'est réservé aux femmes, qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Alors qu'on ne dit jamais que la fraternité impliquerait cette exclusivité masculine.
Et alors cette cécité, elle est tout à fait révélatrice pour moi, de là où on en est encore en 2019.
C'est-à-dire, vous rendez... résiste encore à ce
à
que...
voir, à le voir.
À le voir.
À le voir. Quand vous dites que j'ai une perspective critique, je pense que je l'assume tout à fait. Et...
Mais je trouve que c'est nécessaire. Voilà. Hein, Jeanne-Salac, soyons clairs. Hein, la critique, c'est la pensée tout court. Hein.
Donc là-dessus, je trouve que c'est en ça où je crois qu'on n'a pas le choix d'être radical. C'est-à-dire radical au sens d'aller à la racine. Pour comprendre pourquoi ça résiste et pourquoi quelque chose qui apparaît de l'ordre de l'absurde, hein. Frédéric Worms, quand vous dites, et vous en convenez, que c'est quand même assez incongru de trouver ça décalé, de parler de sororité, ou en tout cas de voir en ça une exclusion des hommes, alors que je dois moi me justifier de dire mais la fraternité a exclu historiquement, a exclu encore aujourd'hui. Donc là, ça montre une cécité historique, théorique, qui explique pourquoi nous en sommes encore là aujourd'hui.
Et qui explique pourquoi certains, justement, mettent en avant des gestes un peu extrêmes, transgressifs en apparence, pour faire apparaître quelque chose. À titre de moyen, finalement, ça vous paraît légitime ?
À moi, ça me paraît tout à fait légitime pour arriver justement à interroger le nœud, hein, et pour arriver à le dénouer. Alors, c'est jamais
vous
agréable.
Vous appelez les points de butée.
Les points de butoir. Et je pense que tant qu'on on n'arrivera pas à assumer cette lucidité-là, qui est dérangeante, hein, on ne fera qu'une forme de réforme cosmétique. Alors que, et vous l'avez dit pour votre lecture aussi de comment cette question touche tout le reste, bien sûr, elle touche tout le reste parce qu'elle est imbriquée et elle a du sens par rapport à la construction même du système politique et économique.
Oui, on parle de la démocratie comme si elle était acquise, on parle des régressions de la démocratie et on ne se rend pas compte peut-être que la seule manière de lutter contre les régressions de la démocratie, c'est de la faire progresser et que cette question des femmes et des hommes, malgré tout, est un champ de progrès de la démocratie contre sa régression.
De progrès de la démocratie, de progrès de la République, hein, parce que tout notre récit, hein, aussi de la chose publique, justement de l'universalisme, il est vraiment central, du libéralisme politique, et de se dire comment est-ce qu'on peut être à la hauteur de ces principes et ne pas justement conditionner la liberté, l'égalité à la fraternité ou à sa mise en scène comme conforme au marché, hein, avec cette idée que ça serait rentable d'inclure les femmes.
D'instrumentaliser l'égalité au nom d'un intérêt autre qu'elle-même. En
fait. Voilà, tout à fait. Donc là, être à la hauteur de ces enjeux-là, c'est complexe, c'est dérangeant et ce n'est pas consensuel. Je crois qu'il faut aussi assumer qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce que ça implique et sur ce que ça dit de notre conception de l'égalité.
Shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith.
Matière à penser, les femmes changent tout, la question des femmes traverse toutes les questions dans notre vie individuelle, collective, sociale, politique, peut-être aussi dans la musique. Réjeanne Sénac, vous êtes spécialiste de la question de l'égalité en politique et notamment entre les hommes et les femmes. Vous nous avez proposé une chanson de Nina Simone, la voix de Nina Simone. Pourquoi exactement est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on est en train de discuter, Réjeanne Sénac?
Oui, moi j'adore Nina Simone et en particulier je trouve que cette chanson elle est très forte, elle est éminemment politique.
Alors, I got life.
En même temps, elle dit tout ce qu'elle n'a pas et puis elle affirme tout ce qu'elle a, à la fois ses cheveux afro, son sexe, voilà. Donc il y a vraiment une logique de réappropriation, d'affirmation. Quand on connaît le parcours de Nina Simone, à la fois le parcours personnel,
qui a été exclue d'une carrière d'artiste, voilà, à cause de sa, j'allais dire, négritude, il ne faut pas dire ça, juste du fait qu'elle était noire, tout simplement.
Voilà. Tout à fait, et en même temps, ses prises de position pour les droits civiques. Voilà, donc je trouve qu'elle est vraiment le symbole de la lucidité, des exclusions, des discriminations et de leurs conséquences très pratiques. Hein. Mm-hmm. On est loin d'être que dans la théorie, la théorie agit. Et puis le fait qu'elle était à l'intersection de plusieurs justement critères d'exclusion et de discrimination, étant une femme noire.
Une femme noire.
Voilà. Et comment elle en a fait aussi une revendication, une bataille, une vie. Donc, et puis au-delà de ça, elle a une voix magnifique. Et
donc elle dit au fond, Regine Sénac, Nina Simone chante ou dit, je n'ai pas tel ou tel droit, j'ai été exclue, mais j'ai la vie, I got life, j'ai ce corps, j'ai ces cheveux, j'ai cette peau. Est-ce que pour vous, c'est aussi dans cette idée I got life, c'est le fondement d'une égalité radicale, nous sommes tous des êtres vivants, il n'y a pas à aller chercher plus loin finalement, avec aussi peut-être cette question de l'être humain dans une société qui est politique aussi, qui passe par le langage, la reconnaissance. Mais est-ce que dans ce I got life, vous entendez une revendication déjà d'égalité radicale? Nous avons tous ça, mais c'est ça le fondement de l'égalité entre nous.
Oui, je trouve que l'interpréter comme ça, puisqu'on sait jamais exactement comment elle l'a pensé, mais l'interpréter comme ça est tout à fait intéressant. Ça pose d'ailleurs la question des frontières de l'humain aussi, même si c'est-à-dire que la vie et le fait, alors il y a cette idée qu'on peut arriver à s'imaginer comme des semblables entre humains, mais de quelle manière on peut aussi repousser ces frontières et amener à se penser égaux au-delà de ces frontières. Là. Donc, en effet, je trouve que ça pose des questions qui sont des questions fondamentales. Et comment à la fois elle affirme une forme de spécificité dans le fait d'avoir tel sexe, d'avoir tel type de cheveux, d'avoir telle couleur de peau, mais que c'est absolument pas une barrière ou ça ne fait pas frontière au fait de se reconnaître comme un semblable, comme une semblable.
Oui, il y a cette possibilité du côté de la vie qui irait en effet très loin. Aujourd'hui, certains veulent qu'on reconnaisse effectivement tous les vivants comme des sujets de droit parce qu'ils ont la vie et donc une capacité aussi à souffrir, par exemple, qui nous oblige. Mais effectivement, vous dites aussi, elle doit revendiquer aussi le fait d'être tout ce qu'elle est par ailleurs, une femme et noire dans un espace où ça induit des discriminations. Quel rôle est-ce que vous attribuez dans cette revendication d'égalité à la parole, à ce je qui chante, qui dit, la revendication comme telle? Est-ce que pour vous c'est un outil majeur de la politique? Il faut que ce je se chante, se dise, pour continuer sur cette lancée de Nina Simone?
Alors, qui est en position et en légitimité de dire « je », d'avoir une voix, et quelle est la portée de cette voix, c'est fondamental. Si on fait un parallèle avec l'actualité, on voit bien que le mouvement MeToo, par exemple, ce phénomène...
Où il y a le « je » déjà.
Où il y a le « je », et on passe du « je » au « nous », et comment le fait de pouvoir dire « je », à travers, en particulier, les réseaux sociaux, permet de dépasser aussi un « je » qui serait un « je » d'une singularité qui aurait du mal peut-être à se penser comme politique ou comme plus collective, et comment ça se transforme, donc le je subi se transforme en nous solidaires, et je trouve que c'est très intéressant donc ce mouvement MeToo pour ça, cette idée de c'est parce que je suis identifiée comme une femme ou comme une femme désirable, en tout cas comme une femme proie du désir des hommes, que j'ai subi tel et tel acte. De la même manière, je trouve que c'est intéressant le débat qui est loin d'être consensuel sur la non-mixité politique, parce que je pense que la capacité de donner les conditions de possibilité de la parole et de dire en tant que discriminée, au cœur d'une discrimination structurelle, qu'elle soit sexiste ou raciste, je n'aurai pas une parole libre, une parole audible, tant que
je ne l'aurais pas assumé cette part-là,
et que s'il y a des personnes qui incarnent la domination, je ne pourrais pas exprimer cette parole de manière libre, parce que j'aurais à me justifier, parce que j'aurais une forme de pudeur, ou parce que voilà, ou parce que je serais je me sentirais sous tutelle. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant de voir la réaction assez violente qu'ont eu justement les frères, la plupart du temps, face à cette revendication des non-frères d'être en non-mixité. Et j'y vois une forme de fraternalisme, hein, pour reprendre Aimé Césaire, pas seulement du maternalisme, du paternalisme, mais du fraternalisme.
Mais alors, vous revenez sur votre critique de la fraternité. Revenons un instant sur ce que vous disiez juste avant, Réjeanne Sénac. Vous dites, au fond, pour arriver à dire « je » de façon libre, « I am a woman, I got life », toutes ces revendications, il faut pouvoir aussi dire un nous femmes, et parfois exclure les hommes, nous noirs, comme disent certains, et produire ces espaces de non-mixité. Est-ce que pour vous, malgré tout, ce sont des moyens critiques, mais l'universel reste la norme que vous revendiquez au fond? Ou bien est-ce que au fond on ne peut pas, est-ce qu'il faut voir dans l'universel de manière générale une illusion et un piège, et assumer, je dirais, le conflit comme essence de la politique? C'est quand même le vrai débat de fond, n'est-il pas là, Réjeanne Sénac? Qu'est-ce qui, dans cette question, non pas des moyens, mais de la fin ultime, est-ce que vous conservez l'universel comme norme ultime, ou bien est-ce que c'est le conflit?
Alors, si le sous-titre est « Osons nous imaginer et être semblables », vous comprenez bien que l'horizon, il est un horizon d'universalité, mais pas une universalité masque d'exclusion ou de discrimination. Et de la même manière que...
L'université qui assume à un certain moment les conflits qui la masquent. Universalisme critique parce que, au fond, elle peut masquer des conflits et même des dominations, et donc qu'il faut les traverser pour... Mais l'universalité reste la norme.
Reste l'horizon, tout à fait. La norme au sens de ce qu'on considère comme juste, malheureusement pas la norme au sens de normalité ou de moyenne.
Non, c'est ça que je voulais dire.
Mais
bien sûr,
voilà, tout à fait. Donc, d'ailleurs, je
au
parle.
Au contraire, la norme qui permet de critiquer des normes qui se prétendent justes et qui ne sont pas et universelles.
Tout à fait. Et je cite en particulier Nancy Fraser, qui fait une lecture critique d'Habermas sur ce point, et elle dit justement. Il peut y avoir nécessité, hein, vous parlez, Frédéric Worms, de moyens critiques, il peut y avoir nécessité de passer par une étape de ce qu'elle appelle, elle, le séparatisme culturel, pour que, justement, ceux qui sont en position d'être des dominés se libèrent, s'émancipent de ces cadres de domination, et donc arrivent quelque part à les faire exploser et à ne pas toujours jouer dans ces cadres contraints. Donc moi, j'utilise une métaphore un peu de jeu pipé, hein. Et cette idée qu'à un moment donné, quand on se rend compte que les cartes qui ont été distribuées sont des cartes faussées, moi, je trouve tout à fait logique, hein, parce que là, j'ai pas un jugement normatif là-dessus, je trouve ça juste logique de dire... On arrête de jouer avec ces cartes.
Il y a une cohérence, finalement, des moyens.
Voilà, tout à fait. Pour bien sûr, se donner les moyens de tendre vers une société où on ne sera plus vu comme des femmes ou des hommes, des racines, mais où on sera réellement, justement, on aura tous une vie, et une vie à épanouir en deçà et pas seulement au-delà de nos identifications.
Alors, comment est-ce que vous voyez quand même ce dernier recours, Réjeanne de Sénac? C'est moi qui dis dernier recours, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu, par exemple, des revendications universalistes. Nous sommes tous frères, vous les critiquez. Il y a eu, à un moment, des revendications, disons, d'identité, mais affirmées, pas conflictuelles. Par exemple, la négritude, il fallait reconnaître une essence, ou la judaïté, enfin, reconnaître une richesse, mais sans que ça passe par une critique, une exclusion réciproque. Aujourd'hui, on en est au point critique, en un sens, où il faut dire « nous, noirs », en excluant de certaines réunions, par exemple, les blancs, parce que seul ce geste d'exclusion manifeste l'exclusion qui a été faite. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un geste limite, ou pour dénoncer une exclusion, il faut en afficher une autre. Est-ce que vous y voyez, encore une fois, on a bien vu que vous y placiez un horizon d'égalité, mais est-ce que vous y voyez aussi un signe d'un retour du racisme, par exemple, ou du sexisme, qui oblige à ces gestes limites? Comment est-ce que vous faites le diagnostic? Est-ce que ça n'est pas aussi une réponse à des régressions?
Alors, pour moi, c'est plus qu'un geste limite. Autant quand on parlait tout à l'heure...
Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un geste à l'image?
C'est-à-dire que c'est plus qu'un geste, en tout cas.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que là où je suis d'accord avec vous, Frédéric Worms, c'est que quand, par exemple, je mets en regard, de manière très didactique, et là, pour moi, c'est un geste, la liberté, égalité, sororité, au regard de liberté, égalité, fraternité, c'est un peu de manière heuristique, en vous disant...
Oui, non, mais vous c'est voyez un peu rhétorique. Bien que, c'est,
voilà, c'est,
je veux vous mettre le nez sur quelque chose.
Voilà, donc là, c'est une forme de gestuelle. Hein.
D'accord.
Alors que dans la manière dont je trouve de manière très politique et très consciente des groupes qui vivent des discriminations et des dominations, qui les pensent comme structurelles, et pour moi elles sont structurelles, se disent que un des moyens d'action, c'est pas le seul, qu'un des moyens d'action, c'est ce qui a été le cas, par exemple, aussi des mouvements féministes dans les années 70, hein, Christine Delphi le dit bien, cette idée de non-mixité politique, qui pour moi n'est pas de l'ordre de l'exclusion. La non-mixité politique, qui peut être sexuée, qui peut être intersectionnelle, qui peut être racialisée, c'est dire, dans les conditions qui sont celles du rapport, et vous parliez de la voix, hein, de la métaphore de la voix, qui sont celles de la construction de la légitimité, de la hauteur de la voix, de l'audibilité de la voix, nous devons passer par ces moments-là. Et c'est des choses qui ont été pratiquées depuis assez longtemps, hein, dans les logiques militantes. Mais c'est des moments particuliers qui nous permettent ensuite de parler ensemble. Alors, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est que, par exemple, alors vous allez me dire, c'est beaucoup moins essentialisé, mais on comprend très bien que les syndicalistes aient besoin, à un certain moment, ou les salariés, de se retrouver entre eux.
Sans les patrons. Sans les adversaires.
Bah, sans les adversaires, pour ensuite parler. Voilà. Donc, je trouve. Et ça choque pas, a priori, grand monde. Donc,
oui, mais on dit on ne naît pas femme, on le devient. On sait très bien qu'on ne naît pas syndicaliste par essence. C'est un combat social, c'est une position qui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de réessentialisation, malgré tout, de ces différences quand on en fait des identités? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de la question de l'identité qui peut revenir malgré tout?
Pour moi, c'est la question éminemment politique des discriminations et de la domination qui sont en jeu. Donc, oui. De la même manière que les syndicalistes se réunissent ou les salariés, non pas parce qu'ils sont nés salariés, mais parce qu'ils ont des intérêts communs liés en particulier au partage d'une profession et de ce que ça implique. Là, de la même manière, le groupe des femmes ou le groupe des personnes racisées n'est pas homogène. Et pour autant, parce que vous êtes identifiée comme une femme, vous allez subir des discriminations, que vous soyez Laurence Parisot ou une réfugiée.
La clé de cette question, Réjeanne Sénac, encore une fois, c'est de montrer dans ce geste, ou c'est plus qu'un geste, en effet, là, c'est une action, montrer dans cette action un sens social et politique. Surtout, ne pas tomber dans le piège de l'essentialisation de cette action. Mais il y a quand même un piège. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que ça peut aussi être réutilisé, réemployé dans le sens de ce que cela veut critiquer avant tout?
Alors pour moi, le piège, il est plus dans la lecture que vont en faire les opposants. Parce que si on écoute vraiment, et Delphi l'expliquait bien, mais les controverses plus récentes, en particulier pour le festival Nian de Sapo, intersectionnel, elles expliquaient bien que c'était vraiment une action politique qui était dans la déconstruction d'une construction sociale d'inégalité, de domination, et c'était absolument pas essentialiste. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on n'entend pas ces voix. Et je trouve que le travail, par exemple, d'Elsa Dorlin est intéressant sur cette idée de comment on nie aux personnes dites vulnérables ou dominées la capacité de se défendre et de choisir leurs armes. Et pour moi, choisir l'arme de la non-mixité politique est quelque chose qui est de l'ordre de la cohérence politique. Et le fait qu'on ne l'entende pas comme ça, mais qu'on l'entende toujours comme une forme de racisme inversé ou de sexisme inversé, est tout simplement une dépolitisation de cette parole-là.
Je crois que vous le justifiez très bien, et c'est vrai que ce geste, dans cette logique-là, je pense, reprend tout son sens. Et il y a la condition de cette logique qu'il faut maintenir derrière, et donc un travail critique, y compris sur soi-même, parce que sinon on peut retomber dans quand même tout le monde à ses pièges. Je voudrais revenir, puisque le temps passe très vite, sur la question initiale, au fond. Est-ce que vous pensez que dans cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous critiquez la fraternité, vous critiquez aussi la liberté, qui est toujours donnée avec une forme de condescendance, qui peut aussi nier l'égalité ou l'inégalité réelle. Est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer justement la cause de l'égalité démocratique en général? Est-ce que vous pensez que cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes est capable de faire bouger aussi justement l'égalité raciale, l'égalité sociale, ou plutôt faire bouger ces inégalités qui reviennent aujourd'hui plus que jamais? Est-ce que c'est pas le combat qui peut permettre d'entraîner tous les autres, encore une fois?
Alors, peut-être qu'en France, avec tous les paradoxes dont on est pétri en ce qui concerne les rapports entre les femmes et les hommes, c'est moins tabou que la question du racisme et de la racialisation. Donc,
ou même aujourd'hui de l'inégalité sociale, qui elle-même devient un peu tabou, la pauvreté finalement.
Alors, en même temps, devient tabou, mais aussi fait écran aux autres questions, avec cette idée à la gauche, en particulier de l'échiquier, que ça serait la seule question qui serait politique, la question entre les pauvres et les riches, et que donc tout le reste, la lutte contre le racisme ou le sexisme, serait culturel, serait des diversions. Donc c'est ambivalent. Hein.
C'est déjà un débat au cœur de mai 68.
Voilà,
ça.
Donc c'est très ambivalent. Et moi, je trouve que c'est une manière tout à fait, encore une fois, dépolitisante, voire méprisante, de ne pas vouloir voir la dimension éminemment politique et économique des inégalités entre les femmes et les hommes, et entre les personnes racisées et non racisées. Moi, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, et vous le dites, Frédéric Worms, c'est que, étant donné que c'est apparemment plus consensuel,
Ça scandalise quand même, quoi, cette inégalité scandalise aujourd'hui en France.
Alors, elle scandalise tant qu'on va pas
surface,
aux racines.
Peut-être en surface.
Mais on n'essaie
pas
de comprendre
pas si mal.
Pourquoi ça vient.
D'autres inégalités ne scandalisent plus.
Vous avez raison. Mais de ce fait-là, vous avez raison qu'on peut essayer d'en faire une ruse pour questionner plus largement cette articulation entre l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Et comment le fait d'être associé à un groupe, que ce soit réel ou supposé, hein, c'est vrai pour les personnes dont on va supposer qu'elles sont musulmanes ou qu'elles sont juives ou qu'elles sont voilà, va amener ces personnes-là à subir des identifications discriminatoires. Donc je trouve que ça tire tout ça. Et par rapport à ce que vous disiez sur la liberté, là où je mets le doigt et le point, c'est de dire comment on
le
va.
Le point avec un G même.
Ouais, c'est ça. Je m'en suis rendu compte dans le livre. C'est comment on va utiliser la liberté contre l'égalité. Avec une forme de discrédit de l'égalité qu'on va renvoyer à la morale et non pas aux politiques, alors que, et pour moi Philippe Pétit là-dessus est très, ouais, très pertinent.
Ouais. Grand théoricien de la République, je le dis au passage.
Voilà, permet de comprendre comment on ne peut pas être libre tant qu'on n'est pas égaux. C'est-à-dire, il parle de liberté de non-domination, et ça montre bien l'imbrication entre ces deux sœurs ennemies dont parlait Bergson, qui en réalité ne sont pas deux sœurs ennemies, mais sont au contraire deux sœurs qui ne peuvent marcher qu'ensemble, réellement.
Ah, vous me feriez trop plaisir en parlant de sœurs ennemies, parce que je crois que ce qu'il y a de commun entre les frères et les sœurs, c'est justement le risque de la violence intime, hein, le risque du fratricide ou du sororicide. Donc s'il y a des sœurs et des frères ennemis, je crois que c'est le cœur du problème politique, mais pardon de cette digression. Il faut que vous nous ameniez au contraire vers une ouverture et une conclusion, la conversation passe trop vite.
Donc cette idée que peut-être la solution c'est de sortir justement de cette analogie familiale et de se situer peut-être plus sur le registre de la solidarité que de la fraternité ou de la sororité. Mmh. Et par rapport au lien entre liberté et égalité, ce que je trouve intéressant, c'est au lieu d'instrumentaliser la liberté avec cette idée, on l'a vu, hein, avec la liberté d'importuner qui s'est opposée en particulier aux dénonciations de violences.
MeToo, il y a eu certaines femmes françaises qui ont revendiqué la liberté d'être importunées.
Ce qui était quand même un oxymore tout à fait révélateur de notre héritage d'une forme d'acceptation et de docilité à la violence et à la domination. Mais pour moi, elle nie ce que disent la liberté et l'égalité ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une co-originarité entre l'émancipation individuelle et collective. Et tant qu'on est associé à des groupes de dominés ou des groupes de vulnérables, on ne peut pas être dans une liberté de non-domination, c'est-à-dire que nos choix vont être enserrés dans des injonctions à cette singularité, à cette conformité. Moi, pourquoi j'ai appelé cet ouvrage L'égalité sans condition, c'est justement, et de la manière que Nina Simone finit sur un appel au courage positif et à un horizon qui est un horizon de résolution et de dépassement. Je pense que pour dépasser ces conditionnements hérités, il faut arriver à penser réellement la liberté et l'égalité ensemble. C'est exigeant, mais c'est sans aucun doute un horizon qui nous rendra plus juste et plus heureux.
L'égalité entre nous et entre tous les nous pour avoir la liberté de chacun. Je pense que vous liez ça de manière très forte, Réjeanne Sénac, et je vous en remercie beaucoup.
Merci Frédéric Worms.
Matière à penser, les femmes changent tout. On vient de le voir d'une manière critique avec Réjeanne Sénac. avec et grâce aussi à Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain avec Claire Marat. À demain.